Bon, merci à tous d'être là hein, par ce bel après-midi ensoleillé, effectivement. Bon, allez, on va essayer de partir vers d'autres horizons, d'autres rivages. Enfin, avec le roman de Laurent, c'est pas forcément beaucoup plus chaud. Hein.
Non, même beaucoup plus froid.
Très bien. Donc, on est réunis ici avec PJ Hérault, Lionel Davoust, Laurence Suner et Adrien Thomas. Je crois qu'il faut échanger les cartels, il semble. Enfin, c'est. Vous aurez sans doute rectifié par vous-même pour parler du roman d'aventure. Alors, lecture plaisir, c'est vrai que ça fait toujours rêver quand on entend parler roman d'aventure, ça rappelle des lectures de l'enfance, des lectures de l'adolescence, et ce qui nous a donné envie de lire. Et puis ensuite, on continue. Il y a comme ça une envie de départ, de voyage, de dépaysement. Alors, je vais peut-être commencer. Adrien, si vous voulez nous expliquer un peu ce que ça représente pour vous. Quand on parle de romans d'aventure, est-ce qu'il vous a donné envie d'écrire des romans d'aventure?
Alors, oula. J'ai un doute. Vous
entendez? One, two.
Super. Alors, pour moi, les romans d'aventure, ça a été, quand j'étais plus petit, j'ai découvert l'île mystérieuse, les romans de pirates, des trucs comme ça. Pour moi, l'aventure, c'est, étrangement, je pense, à aventure, j'associe tout de suite à un bateau et des pirates et des trésors. C'est un réflexe, alors que c'est pas du tout ça. C'est ça qui m'a donné envie d'écrire des romans d'aventure. Après, j'ai commencé à séparer les pirates, les bateaux, du rythme de l'histoire, de la découverte, de l'exploration qui, elle, construisait plus que je voulais. Et je me suis du coup lancé plutôt dans la fantasy parce que je voulais faire de l'exploration de pirates, mais sans pirates.
Oui, parce que pour l'instant, là, maintenant, il n'y a plus de pirates.
Non, pour l'instant.
D'accord.
Ça peut revenir.
Ils peuvent réapparaître, ils
on
sont peut-être cachés.
Voilà.
D'accord. Et donc, mais ça représentait surtout un rythme, petit à petit, c'est ça, c'est ce que vous expliquez.
L'aventure, ouais, il faut qu'il y ait un rythme derrière, une sorte d'excitation, de découverte, de nouveauté, de péripétie. Effectivement, c'est vrai que quelque chose de contemplatif, je trouve ça moins aventureux, je peux me tromper, hein, mais j'ai plutôt l'impression que plus il y a de l'action, plus il y a des choses à découvrir, de nouveautés, des découvertes. Enfin, pour moi, l'aventure, c'est plutôt ça. C'est vraiment
des longs passages de description très contemplatifs.
Il faut la description, à mon avis, dans tous les bouquins, ne serait-ce que pour poser l'univers, pour poser le décor, le paysage, les personnages. Mais il ne faut pas oublier les péripéties. Je pense que ce qui caractérise avant tout le roman d'aventure, c'est les péripéties et la découverte.
Laurence, si vous voulez un peu continuer sur partir un peu de ce qui vous a donné envie.
Alors moi, j'ai toujours été très attirée par tout ce qui est territoire inconnu, inexploré, les aventures de Henri de Montfred quand j'étais enfant, etc. Donc c'est vrai que j'ai toujours beaucoup apprécié le roman d'aventure avec des péripéties, comme il a très justement dit. Et en fait, j'ai toujours voulu pousser plus loin les territoires inconnus, donc... D'où la science-fiction pour moi. Pour moi, c'était pas la fantasy, mais c'était la science-fiction qui était un des meilleurs endroits pour explorer justement ces nouveaux territoires. Voilà. Mais c'est parti d'un émerveillement quand j'étais enfant. C'est-à-dire que j'adorais lire des grands romans d'aventure et qui me faisaient rêver. Donc j'ai voulu aussi à mon tour essayer d'apporter ma part d'imaginaire à travers un certain nombre d'aventures, même si c'est dans mes bouquins, il y a toujours une part liée à la science, la découverte scientifique, mais aussi l'aventure très romanesque, voilà, avec beaucoup de personnages dont les destins se croisent.
Ces livres-là ne donnaient pas également envie de partir faire vraiment les voyages ?
Bien sûr, d'ailleurs j'essaie le plus possible de partir... pour l'instant je ne suis pas partie beaucoup, mais à bord d'expéditions scientifiques sur des bateaux. Malheureusement pas sur des astronefs parce que voilà.
Ah dommage.
Ouais c'est dommage. Hein. Mais sur des bateaux oui. Mais bon je suis quand même une sédentaire et je voyage surtout par l'imaginaire. Mais de temps en temps un petit bateau, petite expédition pour se croire justement revenu au temps des pirates. Oh il y en a toujours des pirates. Hein.
Ah bon.
Il y en a beaucoup.
Lionel. Alors un peu le même genre de vécu que avec mes camarades. Je trouve, pour moi, un roman d'aventure, il y a déjà deux mots qui sont vachement forts, c'est le roman et l'aventure ensemble. Pour moi, c'est juste une promesse qu'un auteur fait à un lecteur. En l'occurrence, quand j'étais gamin, le roman d'aventure, c'est l'auteur qui, j'ai l'impression, qu'il me tend la main et qui va me faire « Tu vas voir, petit, viens, tu vas voir. Viens, on va vivre un truc incroyable. » Et pour moi, le roman d'aventure, c'est ça. C'est juste une promesse, l'auteur qui me dit « Viens, tu vas voir, ça va être génial. » Et je pense qu'au cœur de ça, il y a ces émotions-là. C'est ça va être un truc incroyable. On va voyager, on va voir des nouveaux endroits. Je vais t'emmener dans des trucs que t'as jamais vus. Je vais te faire vivre des trucs que t'as jamais vécu. Je vais te montrer des personnages en couleur. Je vais te faire rêver. Je vais te faire rire. Je vais te faire pleurer. Je vais te faire réfléchir aussi, parce que c'est pas parce que c'est de l'aventure que c'est pas parce que c'est du divertissement au sens le plus vaste ou du roman populaire que c'est nécessairement creux. Pas du tout. Bien au contraire. Combien de gamins, si je prends vraiment un truc très basique, combien de gamins ont eu leur premier éveil, ça a fait rire peut-être, mais ont eu leur premier éveil à la philosophie quand ils avaient 12 ans en regardant Star Wars. Mais mine de rien, voilà, regarde, c'est la force, on est tous liés les uns les autres, enfin, y a, voilà, ça peut allumer des tas d'étincelles. Et donc, après, quand on. Je pense qu'il y a à la base cette envie d'écrire, cette envie de. À son tour défricher des voyages, et puis une fois qu'on les a tracés, qu'on les a retravaillés, qu'on a fait le boulot de l'écrivain, pouvoir dire à son tour, tendre la main à un lecteur qui décède aux 77 ans et lui dire « Allez, venez avec moi, vous allez voir, on va faire un truc incroyable ensemble. »
Et donc dans les romans que vous avez proposés récemment, c'est de la fantaisie urbaine, donc là, il n'y a pas de voyage loin, mais...
Oui et non.
Ah. Oui et non.
Dans la trilogie Léviathan, c'est effectivement, donc c'est du thriller, mais avec de la magie. Donc c'est aussi, il y a un aspect fantasy. Ça se passe dans notre monde. Donc on est vraiment à la frontière entre le code du thriller. On a des flingues, on a des poursuites, voilà. Mais on a également l'aspect fantasy, puisqu'on a une magie sous-jacente qui est tapie dans les interstices de notre monde. Et donc il y a effectivement, on est sur Terre, on est en 2000, en l'occurrence on est fin 2012, 2011 pour le premier. Mais comme il y a ce côté magique, il y a un voyage dans un monde, à travers les fissures de notre réalité, et qui propose un peu un regard différent sur le monde dans lequel on vit. Et puis ça n'empêche pas de voyager, puisque dans la trilogie, on est à Los Angeles, on est en Antarctique, on est au Canada, on est en mer beaucoup, donc ça bouge beaucoup. Ouais. Mais voilà, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit avant, le roman d'aventure, c'est en un mot commençant, c'est un roman où il se passe quelque chose. Quoi.
Oui. Bon, un roman dans lequel il se passe rien, c'est peut-être... Mais il y a un rythme, c'est vrai, il y a un rythme, il y a des péripéties, il y a des risques, il y a du suspense en permanence. PJ Hérault, maintenant, donc, et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie là, d'écrire un nombre très important de romans où on voyage, où on...
Il faut que ça bouge.
Faut que ça bouge.
J'ai probablement été influencé par mon métier, j'étais journaliste auparavant, de reporter, et... ce que je voyais, l'intérêt premier de la littérature populaire de SF par exemple, c'est que ça bouge tout le temps, on pénètre dans des mondes, mais il n'est pas nécessaire d'aller dans les étoiles pour ça. Si vous voulez faire un bouquin sur la plongée, un bouquin qui se passe dans le milieu de la plongée sous-marine, c'est un monde que finalement peu de gens connaissent vraiment. Beaucoup de gens plongent en apnée, mais on voit les rochers, on voit les forêts sous-marines, puis c'est tout. C'est pas ça la plongée. La plongée, c'est de calculer des choses, savoir où on va, jusqu'à quelle profondeur on va, expliquer pourquoi. C'est un monde, vraiment un monde inconnu. Un autre monde, c'est le monde, par exemple, de l'aviation. J'ai fait une uchronie il y a quelques années, une grosse uchronie qui était en trois bouquins. Et le premier a fait le tri dans les lecteurs. C'est-à-dire que le premier comporte un chapitre, le premier chapitre justement, qui est un vol en planeur. C'est un vol que j'ai fait, donc c'était plus facile quand même de le décrire. Et ça faisait entrer complètement dans un monde particulier. Le personnage qui vit cette expérience-là et le personnage qui suit tous les trois bouquins en filigrane. Donc, puis le second filigrane, c'est l'aviation. Enfin, c'est les avions, là, pas les planeurs. Parce qu'il y a une guerre qui s'en suit, et ces gens, enfin, des jeunes gens volants. Et ce premier chapitre, je me souviens, quand je l'ai écrit, je me suis dit, je savais très bien qu'il ferait la différence. Ou bien les gens accepteraient de s'emmerder pendant 40 pages, ou bien ils accepteraient de lire 40 pages. Et lire en étant ouvert à ce que raconte, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a aujourd'hui des gens qui ont bien aimé ce bouquin, puis beaucoup de gens qui l'ont trouvé pas exceptionnel. Et c'est donc quand ça bouge et quand on accède, à un milieu différent que, pour moi, le roman commence. Et la deuxième chose qui me détermine, c'est les mondes. Les mondes dans lesquels on emmène le lecteur. Alors, ça peut être des mondes dans l'espace, mais ça peut être des mondes, comme je viens de le dire, un monde que ne connaissent pas la plupart des gens, ou que ne connaissent pas bien la plupart des gens. La difficulté étant d'entrer suffisamment dans le détail pour leur faire découvrir des choses et de ne pas insister trop sur les détails pour ne pas les ennuyer. Ça, je crois bien que j'ai pas réussi là, dans cette uchronie. Je crois qu'il y a trop de détails d'aéronautique. Ben, c'est un péché, j'allais dire de jeunesse, c'est pas le cas. Mais c'est quand même un péché que j'ai loupé, là, je me suis loupé. Ben voilà.
Oui, parce qu'on pourrait se demander, pour décrire les mondes, on peut aussi faire, vous étiez donc journaliste, on peut faire aussi du reportage. Oui. Et quel est l'avantage ajouté de l'action dans un... voilà. Est-ce que du coup l'aventure n'est pas un prétexte pour faire passer un reportage? Je me fais un peu l'avocat du diable hein, ça.
L'aventure est un prétexte pour faire rêver. Pour moi, la grande qualité du roman, c'est qu'il fait rêver. La grande qualité du roman, c'est de faire la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui ne rêvent pas. Aujourd'hui, à la télé, il y a énormément de gens qui regardent des documentaires ou des émissions de politique ou des talk shows, des choses comme ça. Mais il y a beaucoup moins de gens qu'auparavant qui regardent des fictions. Et ça partage l'auditoire, de la télévision en deux masses totalement différentes. Des gens qui rêvent et des gens qui ne rêvent pas. Des gens qui n'ont pas envie de rêver, qui n'ont pas envie de s'évader. J'en parlais tout à l'heure. Disons qu'une centaine de personnes lisent ou voient une scène, le mieux c'est quand même le bouquin, lisent une scène dans un roman. Si vous les interrogez après, vous obtenez 100 descriptions différentes. Parce que chacun de nous, dans sa petite tête, fait sa sauce. Il voit les choses de cette manière-là. Il oublie complètement telle réflexion des personnages, par exemple, parce que ça ne l'intéresse pas dans le monde qu'il se construit. Et il valorise, au contraire, une description ou des réflexions de personnages, des réflexions très, très, comment dire, très vivantes de personnages. Chacun puise ce qu'il a envie, ce qui l'intéresse dans une scène. Et au cinéma, c'est la même chose. Au cinéma, si vous faites raconter une scène par un certain nombre de spectateurs, vous aurez autant de réponses différentes. Parce que c'est l'imaginaire de chacun de nous. Et pour moi, c'est l'un des piliers de la vie. Enfin, de ma vie, en tout cas, et de la vie des êtres humains, je crois. Même si moins de gens rêve à notre époque, il y a quand même une grosse part de rêve. Si les jeux de hasard, par exemple, marchent aussi bien en ce moment, si le loto, tout ce que vous voulez, ça marche aussi bien, c'est parce que les gens ont besoin de rêver. Ils ont besoin de rêver qu'ils gagnent une belle somme et qu'ils seront à l'abri des emmerdements quotidiens d'aujourd'hui.
C'est une taxe sur le rêve, en quelque sorte. Ouais. On paye pour avoir le droit de rêver.
Ouais. C'est le rêve qui nous permet de vivre. C'est ce que je pense.
Alors, en vous écoutant, là, je repense à une phrase qui dit que le véritable voyage, ce n'est pas de voir d'autres pays, mais de les voir avec d'autres yeux. Ce serait d'avoir les yeux de quelqu'un d'autre. Oui. Et oui. Que ce soit au niveau de la fantaisie ou que ce soit de la fantaisie urbaine, on se retrouve quand même dans cette notion de voyage, même si géographiquement, oui. on peut croire revoir des scènes connues. Le simple fait de les raconter au travers des yeux de quelqu'un qui a une autre culture ou une autre façon de penser amène cette notion de voyage et d'aventure.
Oui, faire le voyage dans sa tête. C'est là que ça se passe. Quand on a du succès, les uns ou les autres, quand des bouquins qu'on écrit plaisent, c'est parce qu'on a réussi à faire rêver les gens dans leur tête avec nos histoires. Ce sont nos mots, ce sont nos histoires, mais les gens font leur rêve en se servant de nos mots et de nos histoires.
Mm-hmm. Oui. Oui, je pense aussi à quelque chose, là, cette réflexion. En fait, je me rends compte que ça fait aussi rêver beaucoup l'auteur, quoi. Le moteur pour moi, en tout cas, c'est de rêver moi, c'est-à-dire de rêver ces voyages que je ne ferai jamais. Et comme je ne les ferai jamais, bah justement, de les rêver et puis de les écrire, je crois que c'est mon moteur principal, en tout cas. Donc voilà, je pense qu'on fait peut-être rêver le lecteur, mais en tout cas, pour ma part, c'est surtout me faire rêver
à
la base.
Écriture plaisir. Ouais. Écrire des romans d'aventure, ouais. C'est une écriture plaisir.
Pas toujours, mais le moteur, oui.
Non, je suis juste d'accord.
Le fait de se placer dans un autre monde aussi, c'est un énorme avantage quand on est littérature de l'imaginaire et que seule la littérature de l'imaginaire sait faire. C'est que, par définition, si on est dans un autre monde ou avec d'autres présupposés, le lecteur implicitement va laisser ses présupposés à lui au vestiaire. Et ça, c'est un des avantages suprêmes de la littérature de l'imaginaire, qui est qu'on peut parler de sujets. On peut parler dessus. On est dans le roman d'aventure, donc il se passe des trucs, des péripéties, il y a une aventure, c'est on voyage. Mais on peut quand même aussi aborder des thèmes graves, sérieux, difficiles, comme la guerre, la perte, etc. Mais on est dans un présupposé différent et ça permet à chacun, que ce soit le premier, évidemment, l'auteur, puisque c'est le premier qui va faire le voyage, mais aussi le lecteur qui va le faire avec lui après. De laisser tous ces présupposés au vestiaire. Et c'est, je pense que c'est très intéressant. Et ça permet aussi, pour reprendre ce que disait PJ Hero, de rêver avec des yeux neufs quelque part. Après, faire les voyages pour de vrai, c'est pas mal. Mais quand je m'efforce autant que possible de partir en mer, un peu comme Laurence. Mais quelque part, c'est la même chose. Ça permet de laisser le connu derrière. Et la littérature de l'imaginaire permet de laisser le connu derrière. Et effectivement, donc de rêver avec une perspective différente.
Oui, je voudrais rebondir là. C'est très personnel et égoïste. Il se trouve que j'ai fait une guerre quand j'étais sous l'uniforme. Et de cette guerre, j'en suis ressorti avec une haine de la guerre, une haine de la violence. Je déteste la violence. Et depuis mon premier bouquin, j'ai fait toujours des bouquins où il y a des guerres.
Mais quand on prend les couvertures, déjà, on... oui. Et les thématiques, il y a toujours quand même quelque chose du combat.
Oui,
toujours. Du risque.
Et les lecteurs qui me lisent sont également des lecteurs qui sont contre la violence et contre la guerre. J'ai la chance, quand j'en vois dans les festivals comme ça, de parler avec eux. Et tous me disent qu'ils sont tous... Ils ont tous un rejet de la guerre, de la violence d'une manière générale. Et pourtant, ils acceptent mes histoires. Ils acceptent mes histoires de guerre. Parce que mes personnages aussi sont révoltés. Mes personnages aussi sont des gens qui refusent la violence, qui refusent la guerre d'une manière générale, qui refusent le combat. Mais ils s'oublient pour accepter le scénario que je leur propose. Le rêve que je leur propose considère par de principes qui sont différents à leur nature, mais pourtant ils acceptent de le faire, ce rêve. Et ils retombent sur leurs pieds à la fin, parce qu'à la fin, je m'efforce quand même de dire que la guerre, c'est pas beau. Donc ils sont d'accord, ils retombent aussi sur leurs pieds.
Alors, j'avais aussi une autre question, un peu qui vous concerne tous de différentes manières. Les lieux que vous visitez, alors certains, ils sont dans l'imaginaire, certes, mais ils sont plus ou moins nourri de vos expériences. Il y a des endroits qu'on peut aller visiter réellement. Il y a des endroits qu'on peut reconstituer. Et ce qui est impressionnant dans les littératures de l'imaginaire, c'est la capacité que vous avez à construire des mondes cohérents. Alors, je sais qu'en fantasy, par exemple, si on se retrouve dans un univers très différent d'une autre, ça ne pose pas de problème. Mais quand il n'est pas cohérent, là, on le ressent tout de suite. Et est-ce qu'au bout d'un moment, vous n'avez pas l'impression que le monde que vous avez créé, finalement, devient presque quelque chose que vous vivez, que vous visitez Comment ça se passe?
Alors, dans mon cas, moi, j'ai un secret, c'est que mon monde existe pour de vrai, mais il est vraiment dans ma tête et je m'y réfugie, en fait. C'est-à-dire qu'il a, il se fait un petit moment qu'il est là, qu'il tourne. Ouais. Ne m'enfermez pas tout de suite. Hein. C'est un truc qui est là depuis un petit moment, qui arrive un peu par vague, en fait. Comment j'expliquerai qu'il se passe tel événement? Ah, bah, je vais expliquer, par exemple, les règles de la magie de telle manière, de manière à ce que ça fasse ce que je veux par ensuite. La construction du monde, c'est quelque chose d'obligatoire pour que ce soit cohérent en fantasy. On peut s'amuser à jouer à l'onirisme, à inventer des règles sans vraiment les expliquer. Ça marche. Pas avec moi, mais ça marche. Moi, j'ai aussi une formation scientifique et j'avoue que j'ai du mal à pas connaître les règles précises qui régissent un monde, un univers. Et effectivement, je tendance à le construire, à faire en sorte qu'il y ait une histoire, une politique, une géographie, une économie qui veut dire quelque chose, en fait. Et pour reprendre le début de la question, mon monde, il peut difficilement être visité parce que je l'ai inventé à plus ou moins de toutes pièces. Par contre, il y a des passages qui peuvent être visités. C'est-à-dire que j'ai des souvenirs de quand j'allais, par exemple, traquer un daim. Je suis pas chasseur, hein, je suis biologiste. Dans la forêt, pour les sortir avec des filets, pour les peser, mesurer, etc. Je me souviens de m'être ramassé un paquet de fois dans la boue, d'avoir glissé, il pleuvait, il faisait froid, mais c'était super marrant, je suis avec des copains, et voilà. Et ça, c'est une scène qu'on peut retrouver plusieurs fois quand je parle de scènes forestières, par exemple. La boue, la pluie, c'est chiant, mais qu'est-ce qu'on s'amuse quand même, quoi.
Oui, donc le ressenti reste très proche de ce que les lecteurs peuvent ressentir, peuvent connaître ou peuvent avoir envie de découvrir. Et c'est le décor, les modes de fonctionnement généraux, les interactions avec l'environnement qui sont un peu plus différentes.
Il ne faut pas renier le fait qu'il y ait forcément des inspirations. C'est-à-dire que je n'ai pas soudainement inventé un monde et qu'il n'y a aucun rapport avec tout ce qui a été fait avant. Ce serait complètement faux. Il y a des influences, des films, des livres, des bouquins, des conversations que j'ai eues avec des gens qui m'ont fait penser à un truc, qui m'ont fait adapter une idée que j'ai trouvée intéressante, qui m'ont fait arriver à une idée à laquelle je n'avais pas pensé avant, bien sûr. Je ne peux pas avoir tout inventé comme ça sans avoir aucun passé, c'est normal.
Et quel est l'endroit que vous préférez dans votre monde?
Il y en a plein. Typiquement, moi, j'ai construit le monde essentiellement autour du sixième royaume, donc le titre du premier bouquin, qui est la grande forêt en plein milieu du continent. Et c'est évidemment mon endroit préféré. C'est une forêt sombre, mystérieuse, avec plein de bestioles étranges, des peuples un peu mystérieux, et où il se passe plein de choses. Donc oui, c'est plutôt environnement forestier, un peu moins bateau, contrairement, j'ai l'impression d'être un peu mis à l'écart, là, du coup. Et voilà, moi, c'est plus la forêt, en fait. C'est vraiment ça qui me...
C'est la forêt.
Ouais, vraiment.
Laurence, donc un peu même alors, genre d'exercice.
Bon, alors moi, mes univers, je les porte à l'intérieur depuis très longtemps aussi. Donc en fait, c'est... Et je m'inspire beaucoup de mes voyages, en fait, des endroits que je visite. Par exemple, ça fait des années que je passe mes hivers en montagne, donc ça m'a beaucoup inspirée pour décrire par exemple, l'univers de cette planète gelée qui est Gemma, en fait, où se passe Vestige. Donc, j'ai besoin d'habiter dans le froid, qu'il fasse moins 20. Comme ça, je ressens bien l'univers.
Donc, quand vous écrivez, vous vous placez dans cet environnement-là,
Il
fait moins 20.
Exactement. Et je vis à 1800 mètres. Donc, déjà, je suis dans un univers. Et cet hiver, il a neigé tous les jours. Donc, voilà, j'étais en parfait. C'est parfait. Mais bon, l'idée, elle est en moi. C'est-à-dire que c'est une idée qui m'habite. Et après, j'essaie de la concrétiser et puis de trouver des éléments qui vont faire qu'elle va devenir crédible. Mmh. Et justement, qu'elle va plus tenir la route que si je pars de rien. Donc, j'ai l'idée de base. Et puis ensuite, j'essaie de la rendre plus crédible, plus, comment dire.
Parce que là, il y a aussi une recherche de cohérence.
Ouais, tout à fait.
On est.
Ouais, j'ai besoin d'un support. J'ai besoin d'une idée, puis ensuite j'ai besoin de la construire.
On se classe déjà dans la art science d'un point de vue de la cohérence du monde.
Ouais, enfin, j'essaie plus ou moins que ça soit crédible, que le monde soit crédible, qu'il puisse exister. C'est pour ça qu'on caractérise souvent le bouquin comme un planète opéra, parce qu'il y a tout un univers qui a été bâti. Il y a eu l'idée, et ensuite je me suis dit, bon, maintenant je veux que ce monde soit plus ou moins cohérent, donc je vais faire des recherches pour appuyer justement mon idée. Voilà.
Et Lionel, vous, en travaillant avec la magie qui serait réelle, est-ce que c'est des fois en regardant des petites choses du quotidien ou sans vraiment vivre ça, parce que jusqu'aux dernières nouvelles, c'est pas encore tout à fait reconnu, je ne sais pas.
Qui sait
Oui, donc, de quelle manière vous avez l'impression des fois de visiter le monde, ou est-ce que finalement ça crée pas un décalage même quand vous regardez le monde tel qu'il apparaît aujourd'hui?
J'aime beaucoup ce que dit Adrien sur le fait que son monde est parfaitement réel puisqu'il y vit. Je pense que quand on écrit des histoires, quand on pense à des histoires, mais enfin, ça concerne tous ceux qui, à un moment, le gamin de 8 ans qui rêvasse en regardant par la fenêtre et s'imagine qu'il va combattre les robots géants qui vont débarquer dans la cour. Tout ça a une forme de réalité. Concernant Léviathan, je me suis beaucoup documenté, ça fait partie de mes intérêts personnels, sur les systèmes initiatiques et religieux à travers le monde, et j'essaie d'en faire une soupe commune en essayant de chercher les points communs, ce qui était un jeu intellectuel intéressant. Et bon, c'est, je pense honnêtement, il y a toujours un moment où un auteur se dit mais si ça se trouve, j'ai trouvé un truc, j'ai raison, etc. Peu importe. Pour moi, la réponse, elle est donnée par Boris Vian, qui dit dans l'ouverture de l'écume des jours, cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée d'un bout à l'autre. Que ce soit vrai ou pas vrai, quand on ouvre un bouquin et qu'on part dans une histoire qui est marquée fiction et a marqué roman sur la couverture, on sait très bien que c'est pas vrai. Mais on s'en fiche. Pendant un moment, on y croit.
Le monde existe.
Pendant un moment, on y croit, et pendant un moment, c'est vrai.
Tout à fait, ouais.
Et c'est ça qui compte. Et l'imagination est le pouvoir le plus important de l'espèce humaine. Avec notre imagination, on a envoyé des fusées sur la Lune. Avec notre imagination, on a décompilé le code génétique. Avec notre imagination, on fait plein de trucs. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, au bout d'un moment, j'en sais, moi. Ce qui compte, c'est l'effet de réalité. Avec un détail près, quand même. Je plaisante en disant qu'est-ce que j'en sais de ce qui est vrai ou pas vrai. Il y a un énorme détail, que ce soit en imaginaire ou que ce soit même en littérature générale, en roman d'amour, etc. La fiction a un devoir que la réalité n'a absolument pas. C'est que la fiction doit être cohérente, la fiction doit avoir du sens. S'il arrive un truc dans un bouquin, ça peut difficilement être gratuit. Ou alors le lecteur va se dire, non mais enfin, pourquoi tu me racontes ça à ce moment-là si ça sert à rien.
Un personnage qu'on a croisé à un moment donné et il ne réapparaît pas,
voilà.
On se demande... Qu'est-ce qu'il est devenu ? Alors que dans la vie quotidienne, on peut croiser 10 000 personnes, on ne sait pas ce qu'elles deviennent.
Exactement. Il nous arrive des tas de trucs absurdes dans la vie. On s'est tous dit à un moment, ah, la réalité dépasse la fiction, je mettrais ça dans un bouquin, personne n'y croirait. C'est justement le problème.
Oui.
donc là, voilà. Mais ça marche, ça c'est vrai pour la littérature de l'imaginaire. On a tendance à mettre en avant la création du monde dans la littérature de l'imaginaire parce qu'on est ailleurs, donc il y a tout un décor à recréer. Avec une partie de référent commun avec notre existence et puis une partie qui part totalement ailleurs, que ce soit dans la SF avec une extrapolation ou que ce soit dans la fantasy avec de la magie, etc. Mais même si on écrit de la littérature générale, il y a cette exigence de cohérence.
Mais même lorsque l'on raconte quelque chose, une histoire vraie, entre guillemets, alors cette notion d'histoire vraie me fait toujours sourire puisqu'en réalité... on en supprime les éléments qui ne vont pas dans le sens du propos qu'on veut amener, de la même façon qu'un roman. Et de toute façon, notre mémoire est déjà sélective.
Même une autobiographie est une fiction, forcément.
Forcément, on re-raconte les choses de manière à donner du sens. On va pas raconter ce qu'on a mangé hier si ça n'a pas de sens par rapport à une histoire globale. Sinon, ça fait un peu bavard.
Voilà, tout à fait. Ouais. Et donc voilà. Donc ce qui compte, c'est cette illusion de réalité. Et je pense que quand on prend un bouquin, enfin, pour moi, le monde de Léviathan ou des Vanégyres, qui pour le coup est de la fantasy steampunk, la fantasy pur jus, moi je suis tout à fait d'accord avec Adrien. Ce monde-là existe. Et si je me place dans notre monde avec Léviathan, qui est donc de la fantasy urbaine, Los Angeles, etc., d'une façon ou d'une autre, cette réalité magique-là va se superposer à ma vision de tous les jours. Parce que si je veux pouvoir y rentrer, raconter une histoire qui va pouvoir être implicante pour le lecteur, tout simplement, j'ai pas le choix.
Oui, oui. P.J. Hérault, vous, au départ, vous aviez écrit des romans d'espionnage en partant peut-être de mondes que vous connaissiez en profondeur, que vous connaissiez bien. Tout à l'heure, vous nous parliez de la plongée. Et ensuite, vous êtes parti vers l'espace. Donc là, vous avez dû faire aussi ce travail de création d'une réalité cohérente. Ou est-ce que déjà avant, il y avait ce besoin, enfin, comment on est passé de l'espionnage à la science-fiction ?
Par l'aviation. Il se trouve que j'ai...
Toujours plus haut.
C'est le hasard, là. Il se trouve que j'ai une grande passion pour l'aviation. Quand j'étais gosse, je voulais devenir pilote. Et puis, j'ai eu des mots avec un copain. Et j'ai un œil qui a pris un coup. Donc, j'ai tiré un trait sur l'aviation. Mais quand je suis rentré d'Algérie, j'ai commencé à voler en planeur, puis en avion après. Et tout au long de ma vie, j'ai volé. J'ai volé jusqu'à ce que j'ai un accident cardiaque qui m'a interdit de voler. Maintenant, je ne peux plus voler. Bon. Mais l'aviation a été une source permanente, enfin, a été en moi pendant 40 ans, 50 ans. Et c'est comme ça que l'espace m'a été proche. Que j'ai trouvé dans les bouquins de science-fiction, des descriptions de l'espace ou des descriptions de manœuvres dans l'espace ou de pilotage qui me parlaient. Parce que je voyais comment on pouvait le faire. Et ça, bon, ce monde-là s'est avéré être un monde qui m'était familier. Mais le décor, au-delà du monde dont on a parlé tout à l'heure, il y a un élément très fort, c'est le décor. Il ne faut pas confondre monde et décor. Les décors qu'on s'imagine, on se les imagine propulsés par les événements dans le bouquin. On a un personnage qui bouge et qui bouge d'une certaine façon, qui cherche quelque chose et pour ça il faut qu'il se déplace et il voit des choses différentes. Donc c'est comme ça qu'on est obligé d'utiliser un décor. J'ai eu l'habitude de dire, oui, que un bouquin, un roman, c'est pas difficile. C'est d'abord une bonne histoire. Ensuite, un personnage central qui est sympathique, qui est empathique, qu'on aimerait avoir pour frère. Un personnage très, très important. Ensuite, un décor. Il faut que le décor soit original. Parce que dans un décor archi connu, on peut en faire quelque chose d'original si on le décrit précisément, si on n'en prend qu'une partie. Et puis, après, des personnages secondaires. Il faut des personnages secondaires qui tiennent la route, qui vivent. Et puis, enfin, du talent. Dans ces temps-là.
Sacrée recette. Là, je me rends compte qu'en discutant, je vous ai plutôt emmené sur la partie voyage. Mais l'aventure, c'est pas seulement le voyage, c'est aussi les héros, les péripéties, tout ce qui se passe. Et Lionel, vous en parliez, il y a aussi les transformations, le côté initiatique de toute aventure. Je crois que une aventure qui serait juste des péripéties sans changement à la fin du héros n'est pas, enfin, sans évolution, sans côté initiatique. Alors peut-être revenez sur le côté initiatique de.
Alors je pense que c'est pas
de l'aventure.
C'est pas une question d'initiation, je pense, même si c'est effectivement fréquent. Campbell le théorise très bien avec le voyage du héros, je pense que c'est. Ou en théorisant que tout récit initiatique, tout ce qu'il calque beaucoup sur un roman d'aventure, c'est un voyage qui peut être physique ou symbolique. C'est-à-dire, le personnage part d'un point A, il a quelque chose à accomplir, et quand il arrive au point B, il n'est plus le même, ce qui d'ailleurs lui interdit de retourner de là d'où il vient. L'exemple que en général tout le monde connaît, c'est Frodon qui, après la quête, est incapable de retourner à la comté. Il faut qu'il parte. Il a vécu trop de trucs, il ne peut pas revenir en arrière. Mais je pense que ce qui est... alors, moi, ce sont les histoires que j'aime beaucoup. Mais je pense pas que ce soit fondamental à un récit d'aventure. Je pense que ce qui est fondamental à un récit d'aventure, c'est la notion d'enjeu. C'est-à-dire que pour que la notion d'enjeu couplée à la notion de voyage, qui peut être un voyage intérieur, mais aussi un voyage avec les péripéties, comme on disait tout à l'heure. Ce qui est important, c'est l'enjeu qui va derrière. C'est-à-dire que si, en un sens, ce que le personnage central ou les personnages centraux vivent, si, en un sens, ce qu'ils ont à faire, ce qu'on les pousse à faire, n'est pas une question fondamentale pour leur propre monde, pour leur existence, si quelque part ils se disent pas à un moment, si je fais pas ça, mon monde va s'effondrer, soit parce que, en gros, moi je vais y rester, bon, ce qui est quand même un enjeu relativement définitif, ou alors je vais tout perdre, ou la fille de mes rêves sera plus là si je ne vais pas lui prouver ma valeur, ce qui est un motif de tas de contes anciens, etc. Si en un sens mon monde personnel n'est pas en danger, alors l'enjeu reste relativement minime et donc il n'y a pas d'appel à l'aventure. Pour moi, je pense, parce que si on prend un exemple, enfin Tony Stark, Iron Man, il finit l'histoire globalement à peu près le même qu'il a commencé. Il reste le playboy, hableur, un peu connard sur les bords, etc. Il a quand même vécu une vache d'aventure entre les deux. Je pense que c'est l'enjeu qui est fondamental. Après, je pense que la dimension initiatique... je trouve qu'un personnage sur lequel les événements n'ont pas de prise, je trouve personnellement, j'arrive pas. Je trouve que je trouve qu'une histoire globalement aussi, c'est quand même un personnage qui va en prendre plein la figure et ça va lui laisser une trace quelque part.
Adrien, Laurence, si ces réflexions.
En fantasy, l'initiatique, c'est devenu, à mon époque, c'est devenu déjà un cliché. C'est-à-dire que le jeune enfant élu par la prophétie mystique qui va sur les chemins, aidé par un vieux magicien, etc., pour accomplir sa destinée, c'est devenu un cliché et dans lequel on peut se permettre de tomber, mais on fait très très talentueux et que personnellement, j'essaie d'éviter. Après il y a forcément effectivement une part d'expérience qui se crée d'impact des événements sur les personnages. Si on n'a pas, c'est des robots ou des connards comme Tony Stark, mais effectivement il faut qu'il y ait un minimum d'impact sur les personnages. Il y a forcément une dimension initiatique à l'aventure, ça met généralement des marques. Si c'est une aventure, on a tendance à s'en souvenir, donc forcément ça nous aura marqué vu qu'on s'en souvient. Ça impacte la mémoire forcément.
Non, c'est vrai, j'aime bien ce que dit Lionel, la notion d'enjeu, quasiment comme si sur le héros, il y avait tout un monde qui reposait. Et c'est assez... oui, je crois que vous résumez assez bien là, ce qui fait qu'on s'accroche, on se dit non, il doit y aller, il n'a pas le choix. Et même s'il s'en prend plein la gueule, c'est qu'il a pas le choix. Il est obligé d'y aller.
Il faut qu'il y ait un but derrière. Il y a aucun héros qui finit une aventure pour l'aventure. Il faut être honnête, ouais. Une aventure telle que décrite dans la plupart des livres, il y a du danger. On risque de se prendre une balle ou une flèche ou une épée dans le coin de la tête relativement facilement. On risque de prendre des maladies. On vit dans les bois, on dort sur des racines. Il fait froid, on doit faire des feux toutes les 5 minutes. On va chasser, on pue, on se lave pas. Enfin, c'est quand même que des trucs pas forcément. Bon, c'est plutôt en fantasy ça, mais. C'est que des trucs pas forcément super agréables, mais qui, en globalité, compensent les aspects bénéfiques de la découverte et surtout le fait de poursuivre un but ultime qui explique le fait qu'on passe à travers toutes ces épreuves. C'est-à-dire qu'il y a forcément un but intéressant. On va pas partir un beau matin, tiens, je vais faire du camping pendant 6 mois jusqu'au Mordor. Il n'y a pas de logique.
Oui, si, enfin, il y en a.
C'est plus difficile, on va dire. C'est plus difficile à expliquer. Alors que si c'est pour détruire un anneau maléfique, machin truc... Il y a une logique derrière et qui explique qu'on passe par toutes ces péripéties. Mmh. Donc il faut effectivement un but, à mon avis, au bout.
Oui, les personnages sont entraînés dans l'aventure, souvent contre leur volonté, quoi. Ils doivent répondre à leur destin, suivre... voilà, c'est dans ce sens-là. Et par exemple, dans mon bouquin, les personnages ont toutes sortes de catastrophes qui les enchaînent, etc. Et bon, forcément, ils sont transformés au fil de l'aventure. Mais c'est pas une aventure choisie, on va dire.
Oui, ils se sont pas levés un matin en se disant « Je vais sauver le monde » ou « Ouais. C'est d'ailleurs, souvent, la plupart des héros des romans d'aventure ne savaient pas pourquoi ils signaient au début du roman. Est-ce que vous les le savez, auteurs, d'ailleurs? C'est ce que j'allais dire. Est-ce que les auteurs sont toujours au courant, maîtrisent complètement ce qui va arriver? Est-ce que vous êtes des démiurges?
Je pense que ça dépend complètement des auteurs. J'ai discuté avec plusieurs auteurs. Il y en a qui ont prévu, qui ont des plans alignés et disent qu'il va se passer ça à tel moment tout le temps. Ouais. Et il y en a d'autres où, au contraire, dans mon cas, moi, je crée des personnages et je dis on verra ce qui va leur arriver. Et une fois sur deux, je les tue avant la fin du bouquin parce qu'ils m'ont gonflé ou... ou parce qu'il faut une mort tragique à un moment. Ou alors,
C'est dur d'être personnage dans vos livres.
Oui. Très dur.
Chez moi, c'est pareil.
Waouh. Hein.
Personnage qui souffre est beaucoup plus intéressant qu'un personnage mort. Un personnage mort, son histoire est finie. Alors que s'il souffre, il reste intéressant.
C'est pas faux.
Alors oui, parce que vous, Lionel, vous savez ce qui va arriver à vos personnages.
Oh oui. Non, mais j'ai des plans. Ouais, la trilogie Léviathan fait quelque chose comme 1500 pages au total. Et avant d'écrire la première ligne du premier volume, je savais comment ça allait se terminer. Moi, je structure beaucoup. Je savais aussi ce qui allait attendre les personnages, les pauvres. Aucun plan de bataille ne survit à sa rencontre avec l'ennemi. Donc, c'est pas parce que je savais où j'allais ou je savais comment ça allait se terminer qu'il n'y a pas eu des changements.
D'accord, il y a quand même un peu des surprises.
Oui, heureusement d'ailleurs.
D'accord, mais pour l'écrivain aussi.
Oui, ouais. Oui, tout à fait.
Pour le lecteur, évidemment. Mmh. Mais,
hein. Oui, oui, et heureusement, parce que c'est aussi ça qui... Enfin, ça contribue au sel de la chose, hein, même si on est... Enfin, moi, j'ai un côté très architecte dans le truc, mais il y a forcément des détours, il y a forcément à un moment le personnage qui va avoir acquis une existence et qui fait que certaines scènes vont tomber à l'eau, vont plus être intéressantes. Mais ce qui est génial, c'est que le personnage et l'histoire, avec ce qu'ils sont devenus au fil de l'écriture, vont suggérer d'eux-mêmes d'autres voies qui vont être finalement plus intéressantes et auxquelles j'aurais pu réfléchir 6 mois en faisant que ça, je ne les aurais pas trouvées. C'est les personnages, au bout d'un moment, qui prennent par la main et l'histoire qui se dévoile. Et l'histoire, elle émerge autant qu'on la construit.
Parce qu'un plan qui donnerait tous les détails, ce serait déjà le roman.
Oui. À un moment, il faut faire le chemin.
Voilà.
Il faut faire le voilà. On peut. C'est comme faire une rando.
On a beau regarder la carte, si détaillée soit-elle, ça ne donnera pas la randonnée.
Voilà. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de la faire parce que c'est là qu'on va voir les trucs, voir des jolis coins, passer par des détours qu'on ne pensait pas et avoir les belles découvertes. Et c'est là qu'on va vivre la chose.
Merci.
J'ai une grande admiration pour les gars comme toi. Le premier bouquin que j'avais fait sur 20 pages l'histoire totale. C'était un synopsis écrit en signe télégraphique. Donc sur une ligne, j'avais déjà 2 ou 3 journées dans le bouquin. Et je me suis emmerdé à l'écrire ce bouquin. Je le connaissais déjà. J'avais même prévu, c'était un bouquin d'espionnage. J'avais un personnage qui partait de Rome et qui allait se poser en direction de l'Argentine. J'avais les horaires des avions. J'avais mis les horaires exacts des avions. Les jours où ces avions, ces lignes fonctionnaient. Les horaires d'arrivée, de départ, les correspondances, tout. Comme quand un gars tirait avec un pistolet, c'était un bouquin d'espionnage. J'avais le nombre de coups qu'il lançait, qu'il tirait. Et après, j'avais le nombre de cartouches qu'il avait sur lui pour pouvoir remplir son arme. Et c'était chiant, mais qu'est-ce que je me suis emmerdé. Heureusement, après, j'ai plus jamais fait ça. Plus jamais. C'est-à-dire que je suis parti sur une vague idée, très vague. Et puis, je voyais. Mais ça donne des joies fabuleuses, ça. Ça donne, par exemple, la joie que je te souhaite. La joie qui consiste à s'arrêter de botter, le bosser vers 2h30, 3h du matin. Parce que bon, il faut quand même aller se coucher. Et puis, en allant se mettre au lit, on dit, merde, qu'est-ce qui arrive demain? Qu'est-ce qu'il arrive le lendemain? Qu'est-ce qu'il arrive après? Parce qu'on ne connaît pas la suite. On ne la connaît pas plus que le lecteur. On ne sait pas du tout ce qui va lui arriver. D'ailleurs, quelquefois, on les laisse dans un merdier monumental et on se dit qu'on se demande comment on va les sortir de là, les personnages. Ils n'ont pas mérité des auteurs comme nous. Et ça, c'est pour moi, c'est ça l'écriture que je sais faire. Je ne dis pas du tout que ton écriture. Bazin, par exemple, est un mec. Qui avait des récits parfaitement détaillés de tous ses bouquins. Et il mettait ça même sur un grand une grande feuille de papier, puis barrer au fur et à mesure ce qu'il avait fait. C'est chiant. C'est peut-être pour ça que je suis un chiant.
Moi, c'est ma pire terreur, ça. De me coucher un soir en me disant je sais pas ce qui va se passer demain, mon Dieu. Qu'est-ce qui va arriver? Ça me terrifie, quoi.
Qu'est-ce que c'est chouette? Oh, dis donc, t'as encore des trucs à découvrir. Je t'envie.
Mais c'est marrant parce que je faisais on faisait l'atelier d'écriture ce matin, et c'est vrai qu'il y a des auteurs effectivement qui sont oh mon Dieu, si je sais la fin ça va m'emmerder, moi si je sais pas la fin je peux pas y aller. Mais ça veut pas dire qu'il y a pas des surprises en cours de route, au contraire. Oui. À bout d'un moment le personnage sort de la page et fait non, je vais pas faire ça, je vais pas faire ce que t'as prévu. Par contre je vais faire autrement, mais je vais le faire encore mieux, tu vas voir.
Ah oui.
Et là faut juste dire au personnage bon bah ok, montre, parce que je sais pas moi.
Mais c'est le piège des personnages, ça. Parce qu'on est piégé par des personnages. On leur imagine un caractère, une façon d'agir, de se comporter, de parler même. Et ça devient leur façon à eux de parler, de s'exprimer, et plus la nôtre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les faire parler différemment, deux chapitres plus loin, ou on ne peut pas les faire agir différemment. Le mec qui est un parfait gentil, j'allais dire, enfin un type gentil, bon comme c'est pas permis, on ne peut pas le faire devenir un salaud deux chapitres plus loin. C'est pas possible. Parce qu'il est comme il est. Et si nous, si on veut qu'il soit salaud, il faut qu'on fasse une raison, il ne le sera pas. Donc, il nous piège. On est piégé par les personnages. Et ça, c'est une difficulté énorme pour écrire. C'est en même temps une grande joie.
Merci. Là, je vois que le temps passe assez vite. Tous les cas, ce que j'ai ressenti, c'est que pour les auteurs eux-mêmes... c'est l'aventure en écrivant, quoi. Ce que vous transmettez, c'est ce que vous vivez aussi. Chacun avec votre univers, chacun avec votre connaissance du monde, vos passions.
J'irais plus loin. On sait très bien quand on a fait un beau bouquin ou un mauvais bouquin. Quand on a fait un beau bouquin, on l'a vécu. On a été dedans. On a vibré. Et ça, le lecteur le vibre aussi. Alors que si on fait un bouquin qui n'est pas excitant. Ben, le lecteur ne sera pas excité non plus. Hein.
J'imagine assez bien qu'en écrivant même vos romans, il y a des moments où le cœur doit battre plus fort et puis on essaie d'écrire plus vite.
Pire que ça, je vais regarder un petit peu idiot là, enfin plusieurs reprises dans des bouquins. J'ai écrit des passages qui étaient difficiles, qui étaient durs, moralement, intellectuellement durs. Et je me suis surpris à plusieurs reprises à avoir les larmes aux yeux. Mm-hmm. Sur ce que j'écrivais,
oui,
moi.
J'imagine.
C'est quand même un peu couillon. Un peu couillon, non?
Bien. Je vis tellement mes trucs que je transpire, c'est l'horreur.
Oui, non, mais j'imagine que physiquement, vous ressentez... Autant le lecteur peut ressentir cette angoisse ou l'intensité des émotions, mais vous aussi, en les écrivant...
Ça arrive souvent, le coup de stress, la vie va arriver ça dans la tronche, et on est en angoisse pour le personnage, alors on sait très bien qu'on va le tuer. Mais. mais. Non, j'exagère, c'est un cliché, mais oui, on s'attend à ce qui va arriver au personnage, on sait, c'est nous, on l'a dans la tête, on va l'écrire, mais au moment où on l'écrit, on le ressent, et c'est pas toujours marrant.
C'est là que l'auteur montre tout son manque de santé mentale. Il y a effectivement ce double côté entre. Je me rappelle, j'ai vraiment eu un passage dans le volume 2 au début où j'ai eu à la fois le personnage, j'ai pris le personnage dans la tronche et la persona d'auteur qui était à côté. Parce que j'ai eu, dans la même seconde, j'étais en train d'écrire un truc, j'ai fait oh, c'est horrible! Ouais!
Bon, mais écoutez, merci à tous les quatre. En tous les cas, ça donne envie de partir au sein de vos mondes. Et je vous invite à continuer à discuter avec les auteurs. Vous repartez... oui, hein, il y a toutes les dédicaces. C'est ça, vous êtes tous sous le grand chapiteau pour des dédicaces et puis pour des discussions aussi, pour en savoir plus. Au revoir.